RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, maître Yodu, l'athlète de l'équipe de France, le plus svelte de la team. Salut Yoann.
Oh oui. Le plus musclé même, parce que quand je vous vois torse nu.
Le plus moustique.
Salut à tous.
Ouais, le plus léger. On n'est pas la même catégorie de boxeur, quoi. En gros, c'est
ouais,
ça.
Ouais, poids mouche.
Bon, Yoann, on est ravis de te retrouver. On remercie tous les auditeurs de la communauté RMC Running pour votre soutien, pour votre fidélité. Record d'audience en octobre. On continue de grandir. Boum. Alors, si ce n'est pas déjà fait, vous laissez des notes et des commentaires sur Apple, Spotify et Deezer. On vous attend également sur nos réseaux sociaux, Strava, Instagram et X, anciennement Twitter. Évidemment, la thématique va tous vous intéresser aujourd'hui d'ailleurs, on va parler de nutrition, ça on l'a déjà fait dans RMC Running, pardon, mais c'est un peu plus précis aujourd'hui, parce qu'on va s'intéresser au choix des aliments, voilà, c'est le sujet du jour, bien sélectionner ce qu'on mange pour optimiser ses performances, et on a convoqué un spécialiste qui va arriver dans une seconde, Eliott Saja, coach sportif, fondateur de Fit and Eat, qui va être avec nous. Il va vous donner toutes les clés, vous permettre de mettre en place une méthode si jamais vous négligez cet aspect de l'entraînement. Et puis le bon plan matos, ça nous concerne également. Des amis d'RMC Running, NutriPure, la marque sera là avec Marine Archer, qui est responsable marketing. On vous fera gagner 5 packs boissons énergétiques longue distance. C'est la période des marathons, donc vous allez vous régaler. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On va tous ensemble apprendre à bien manger.
Déjà, garde en tête que tous les aliments sont bons. Ce qui ne va pas être bon, c'est d'en manger en excès.
Est-ce que tu te rends compte de la vie qu'il mène, ton Martinet ? Il se nourrit avec 3 olives, il boit de l'eau claire, il se couche avec les poules.
Et alors,
à Paris, on va lui changer sa petite routine.
La récupération des charges d'entraînement vient aussi de l'alimentation et de ce que tu vas apporter à ton corps en termes de protéines, de glucides et tout ça dans ta préparation.
Les premiers aliments vont bien sûr être les légumes. Brocoli, épinards, chou-fleur, chou de Bruxelles. C'est riche en nutriments, minéraux, vitamines.
Alors si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Hein.
Les protéines sont vraiment indispensables pour réparer les dégâts occasionnés suite à la course à pied.
Et du coup, les gens courent pour que les frites arrivent chaudes chez eux.
Idéalement, dans les 2 heures qui suivent l'entraînement, ne restez pas longtemps sans apport alimentaire et sans calories après votre entraînement.
Prochain ingrédient, les œufs. Forcément, il fallait y venir. Pareil que pour la viande et le poisson, on va essayer de prendre des œufs dont les poules ont été élevées en plein air.
Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques.
Dans le sud-ouest, même pas tu dis chocolatine en entier, tu dis choco et le boulanger il sait ce que c'est une choco.
T'as compris ? Non,
c'est incroyable ça sort de chez nous. Une choco. C'est pire que tout, une choco.
Ah, mais choco, oui.
Bon, on aura le temps d'en reparler. On accueille notre invité Eliott Saja qui est à mes côtés. Salut Eliott.
Salut.
Bienvenue Eliott.
Merci beaucoup.
Ah, on a hâte d'entendre tous tes conseils, hein, parce que là on a parlé de frites, tout ça, de beaucoup de gras. À mon avis, ça va pas être les conseils que tu vas nous donner. Bah, comment ça va déjà?
Bah, ça va très bien, et toi?
Ça va, on s'est rencontrés la semaine dernière, donc sur un événement. On s'est pas croisés, mais on était rassemblés aussi au Marseille-Cassis. Tu as couru le Marseille-Cassis récemment.
Exactement, ouais.
Ça s'est bien passé, ça a été?
Ça s'est bien passé, ça ouais. S'est passé.
Bien, bon, on verra.
Bon, tu as eu la chance de croiser le maître Yodu, Yoann Durand, tu l'as vu là.
Exactement.
Impressionnant, ouais. En vrai. Hein.
Impressionnant, ouais.
Non, c'était un magnifique week-end en tout cas. Eliott, quand on reçoit les invités, on pose toujours cette même question quand on démarre. Elle est simple, pourquoi tu cours alors?
Pourquoi je cours? C'est une bonne question.
Ouais.
En gros, moi j'ai commencé la course à pied il y a 2 ans.
Ouais.
Je détestais la course à pied, genre vraiment. Moi, je suis sportif, je faisais du judo avant.
Ouais, c'est pas ton sport de prédilection.
Pas du tout, je suis quelqu'un qui est très mauvais en endurance et je déteste ça. Et je faisais partie de la team des gens qui disaient « Mais pourquoi tu cours? Ça sert pas à grand-chose quoi, de courir pendant 2 heures. Mm-hmm. » Et en fait, j'ai commencé. Le problème, c'est que quand tu commences, bah, tu progresses. Et puis, au fur et à mesure, tu commences à apprécier. Et tu deviens, c'est une addiction, en fait. Ça
donc
devient
aujourd'hui,
l'addiction.
Tu prends vraiment du plaisir à courir.
Bah, c'est plus que ça. C'est que si je cours pas, je me sens mal. Quoi.
Ah, donc ça devance aujourd'hui tous les autres sports que tu as pratiqués.
Ouais, aujourd'hui, je fais que de la course à pied. C'est devenu vraiment... je m'entraîne 5-6 fois par semaine et je fais que ça.
Bon, bah on va en apprendre plus sur toi. On lance tout de suite ton CV de coureur.
RMC.
Le CV de coureur.
T'as quel âge, Eliott?
28.
Hey, tout jeune, Eliott, hein, tu te rends compte?
Oui, ouais.
Il a presque 10 ans de moins que toi.
Mais non, moi j'ai 28. Aussi.
Ouais, c'est ça. Donc tu cours. Ça fait 2 ans que tu cours. Tu cours 5-6 fois par semaine, toutes les semaines?
Depuis peu, oui.
Ok. Ça représente combien de kilomètres en moyenne?
Je fais entre 50 et 60 km par semaine.
Ouais, donc déjà des bons volumes. Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier?
pour l'instant pas fier, mais ça commence. Ouais. Non, mais j'ai commencé il y a peu, donc j'ai pas beaucoup de référentiel en fait. Donc,
ah, c'est la bonne période de la course à pied, tu sais.
Voilà,
tu
te sais,
lances,
tu vas progresser tout le temps.
Tu fais les premières références,
ça descend.
Voilà, là t'es content.
Ah ouais, 5 minutes par 10 kills.
Exactement.
La dernière course disputée, c'est Marseille-Cassis.
Non, c'était le Kiden de Paris.
Une course. Ouais,
il enchaîne.
J'ai fait les 5 km.
Météo Kata, non?
Comment?
La météo était.
Ouais, météo Kata, il y avait du vent, le parcours en plus c'est vraiment dur, je trouve.
Et ben c'est les échos que j'ai eu aussi.
Ouais, ouais, il y a des épingles partout, ouais. C'est compliqué. Ouais.
Bon. Quelle sera la prochaine?
Je fais le marathon FH à Dakar.
Ah, super! Et c'est quand?
Dans 15 jours.
Ah oui! Ah voilà. Oui, ça vient vite!
C'est le premier marathon?
Non, je fais le semi-marathon du marathon FH.
Ah, bon. D'accord.
Et la semaine d'après, je fais le semi de Boulogne.
Ok, donc tu t'enchaînes deux semis dans des conditions météo complètement différentes.
C'est ça, mais le semi de Boulogne, c'est, voilà, c'est, je pense que c'est parce que je débute la course et que je fais un peu n'importe quoi et je cours tout le temps.
Non, mais écoute, c'est, bah, ce sera une belle expérience en tout cas. Ça va être sympa d'aller courir un semi à Dakar. Quelle est ta séance d'entraînement préférée?
J'adore les fractionnés, perso.
Ah, voilà. Donc t'es plus un mec de cours. T'aimes bien le 200, le 300, le 400?
400, c'est vraiment ce que je préfère, quoi.
Ouais. Ouais.
Ça vois, vient du judo, ça. Une minute d'effort.
Ouais. Voilà, c'est exactement
une
ça.
Minute,
ouais.
Une
ouais,
minute trente.
Ouais, ça ressemble aux efforts du. Le judo, c'est 3 minutes un combat.
4 minutes. Enfin, en tout cas, à mon époque, c'était 4 minutes.
Ok. Et la séance que tu détestes, du coup?
Bah, je déteste les sorties longues, moi.
Ah, pour l'instant.
Pour l'instant, ouais.
Ok. Bon. Elliot Saja est donc avec nous cette semaine. Vous l'avez entendu, un profil atypique. Elliot tout jeune, Elliot qui s'est lancé dans la course à pied, mais qui est passionnant sur le sujet qu'on va aborder, donc la nutrition. Mais raconte-nous ton histoire. Donc, tu vois, tu étais judoka à haut niveau, d'ailleurs. Donc, ouais. Tu as été assez bon jeune. C'était vraiment le seul sport que tu pratiquais jusqu'à la fin de l'adolescence?
Ouais, ouais, je faisais du judo tout le temps. Je devais faire 15-20 heures de judo par semaine.
Ah, enfin,
entre la PPG et le judo. Et okay. Je faisais que ça. Et je me suis assez gravement blessé, je me suis pété 6 côtes. Et en fait, du
au
coup.
Judo
au judo, ouais.
Incroyable.
Au championnat de France. Et enfin bref, je vais pas te raconter les détails, mais c'était un peu horrible.
Okay.
Et ça m'a pris 6 mois avant de remonter sur les tapis. Et en fait, j'ai eu un trauma global des régimes. Enfin, le judo, c'est hyper exigeant. Tu vois, il y a le côté alimentaire qui est vraiment hyper restrictif. Et en fait, j'en pouvais plus. Je sortais jamais. J'avais pas de vie sociale. Et du coup, j'ai décidé de reprendre les études, du coup, et d'arrêter le judo complètement, quoi.
Ah ouais, donc dégoût après cette blessure.
Jamais remonté sur un tapis.
Ok.
Jamais.
Et t'as jamais ressenti ce manque?
Non, vraiment, j'ai aucun. C'est assez spécial, hein, mais.
Non, mais c'est. Ouais.
Je pense que je remonterai jamais sur un tapis. Parce qu'en plus, j'ai du mal à envisager le sport sans compétition.
Ouais.
Donc je sais que si je remonte, ce serait pour refaire de la compète. Et aujourd'hui, j'aurais plus le niveau, de toute façon. Donc,
ok. Mais après, c'est des sports. On dit souvent que la course à pied est un sport ingrat, mais le judo, c'est pareil. C'est très dur, c'est très exigeant.
Ouais, ouais.
Ta catégorie de poids, c'était quoi?
Moins de 55 en junior.
Oh
ouais.
Ah ouais.
Et moins de 60 en senior.
À Yodu, ça passe, hein, moins de 60. Un peu de sauna.
Oui! Ah oui, non, ça passerait, mais après c'est sur les prises et compagnie là.
Ouais, c'est
là, ouais. Là, c'est, j'y connais rien du tout. Hein,
non, mais ça c'est intéressant parce que tu le disais, il y a beaucoup de préparation physique.
Ouais, beaucoup, ouais.
Le judo, c'est beaucoup d'intensité aussi. Sur 15-20 heures d'entraînement, c'était quoi? Comment était la répartition du travail?
Que les roulades.
Ouais.
En gros, j'avais une heure et demie par jour de judo.
Ouais.
T'avais un entraînement spécifique dans la semaine, ça s'appelait CPF, et en gros c'est pendant 2 heures, en gros tu fais que de te faire que des chutes, donc tu fais que de tomber pendant 2 heures, quoi, pour apprendre à chuter, apprendre à encaisser les coups, etc.
Okay.
Et le reste du temps c'est que de la PPG, quoi. Mais le judo c'est un sport qui est hyper explosif, c'est vraiment aux antipodes de la course à pied, enfin en tout cas de la course à pied longue que je fais actuellement, quoi. Mmh.
Ok, et donc c'est peut-être... Comment tu arrives à la course à pied? Alors, comment tu te dis, vas-y, je vais me mettre à courir?
L'histoire est assez drôle parce qu'en fait, moi, je suis coach sportif.
Ouais.
Et en fait, je n'étais pas du tout spécialisé en course à pied. Après, je peux accompagner un peu n'importe qui dans n'importe quel sport sans être dans le spécifique. Et j'ai un client qui m'a dit, oh, ça me chaufferait bien de faire le semi de Paris.
Mm-hmm.
Donc, du coup, il m'a chauffé à faire le semi de Paris. Il m'a dit, tu m'accompagnes. On est parti sur un sas pour 2 heures. Hein. Et en fait, la veille, il s'est pris une cuite et il n'est jamais venu à la course.
Donc, du coup, j'ai retrouvé tout seul.
Voilà, c'est ça.
Okay.
Donc, du coup, j'ai fait quand même la course. C'était une catastrophe. J'ai fait 2h09 au semi.
Ouais.
Donc vraiment j'ai pris un gros coup sur l'ego en fait.
Okay.
Je m'étais jamais entraîné.
Et ça il y a peu de temps alors?
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, ok.
Il y a 2 ans et du coup je me suis dit bon bah je vais essayer de refaire un semi 2 mois après pour essayer de m'améliorer un peu, et j'ai gagné 15 minutes et je me suis dit bon bah je vais continuer, et puis bah au final je suis rentré dans un cercle qui a fait que
ça y est.
Les chronos descendent, t'as envie de continuer, t'en fais plus. Et,
Et en termes d'études, donc tu fais, t'étais, pour faire du judo quotidiennement, t'étais dans une sorte de sport-études?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ok.
Exactement.
Et après tu continues et tu bascules vers le côté coaching sportif. Quoi.
Ouais,
c'est
exactement.
Vraiment ce qui t'a motivé. Tu voulais rester dans le sport quoi qu'il arrive.
Ouais, je voulais rester dans le sport et je suis quelqu'un qui. Enfin, j'adore aider les gens et j'étais un peu dans la pédagogie. Donc je me suis dit j'allais me réorienter vers la pédago sportive, donc j'ai fait 3 années en STAPS, après j'ai fait plein de formations d'études, j'ai fait aussi un BPGEPS Et aujourd'hui, bah, je suis coach sportif, je fais que du privé à domicile chez les gens à Paris.
On a un épisode pour toi, hein. Manon Trapp, tu le sais, ancienne judokate, qu'adore aujourd'hui en termes de course à pied. Hein, okay. Là, grand espoir de la course à pied féminine française. Donc là, tu peux aller te renseigner, mais c'est vrai que ça lui apportait beaucoup. Elle nous racontait d'ailleurs comment le judo l'a aidé justement, et tout l'aspect mental aussi.
Ouais, l'aspect mental, surtout.
Dans les moments difficiles, comme ça l'aide à résister. Gros talent d'ailleurs, hein, Yodu, Manon Trapp. Hein.
Ah, Manon, ouais. Manon, c'est vraiment l'avenir du demi-fond en France, mais elle est vraiment touche à tout. Elle est forte en cross, elle est forte sur route, elle est forte sur 5000 et elle sera forte sur trail parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui l'attire aussi, ce côté vu qu'elle vient de la montagne. J'ai l'impression qu'elle est quand même très attirée par ça, mais ouais, c'est... l'épisode était fou. Et d'ailleurs, de mémoire, je crois qu'elle m'a dit qu'elle me mettrait une petite prise la prochaine fois que je la verrai, donc je l'ai toujours pas croisée.
Ah ouais, tu
l'évites pour moi.
Du coup, tu l'évites. Ah oui, parce que souviens, à l'époque, tu entendras ça dans l'épisode d'Eliott, notre ami Yodu a dit que le judo était pas vraiment un sport.
Non, je sais plus, j'avais pas dit ça comme ça.
Il insulte pas celui-là. Ouais, bah écoute, moi je t'avais dit que si. Pourtant, je te rappelle que moi j'étais ceinture orange quand même.
Ah, c'est beau.
Voilà. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, tu vois, le judo.
C'est une belle école. Hein.
L'obsession du régime, parce que toi t'es très très pointu sur l'aspect nutritionnel des choses. Ça te vient de là aussi, la perte de poids, le fait de passer justement sous les 55 kilos pour pouvoir aller sur une compète?
En fait, ça a toujours été mal fait. C'est-à-dire que moi, dans toute ma carrière, entre guillemets, de judoka, ça a toujours été extrêmement mal fait. J'étais mal encadré et je pense que ça fait très peu de temps qu'on encadre mieux, en tout cas à haut niveau, l'alimentation.
Ça veut dire quoi, c'était mal fait, hein?
En fait, si tu veux, le but premier, c'était simplement d'arriver dans la catégorie de poids. Peu importe le moyen. C'est-à-dire que moi, ça m'arrivait plusieurs fois de me retrouver avec un K-Way dans la voiture, avec la clim à fond, enfin avec le chauffage à fond pour faire les
bonne
derniers...
méthode à l'ancienne, quoi.
Voilà.
À l'ancienne,
ouais.
Enfin, voilà, toutes les méthodes sont utilisées, quoi. Genre, okay. Et du coup, t'arrives en fait finalement à ton premier combat et t'es lessivé complètement. On te fait bouffer un plat de pâtes 10 minutes avant ton premier combat. Enfin, tu vois tout ce qu'il faut pas faire, quoi.
Ouais. Oui, parce que c'est la spécificité du judo, mais tous les combats sont sur la même journée.
Ouais, tous les combats
sont
sur la même journée.
Il faut être performant tout au long de la journée. C'est ça. Et si tu perds d'entrée, c'est fini, quoi.
Exactement. Enfin, tu peux être repêché, mais de toute façon, tu peux pas être mieux que 3e.
Voilà.
Ouais. T'as envie d'être mieux que 3e. Donc.
Ouais, évidemment. Mais. Des jeunes comme ça, ça t'a obsédé, bien manger, savoir comment le corps fonctionne, comment il réagit à différents types d'aliments et tout?
Ce côté, comment le corps fonctionne, j'ai toujours été vachement passionné par la physiologie, la bioméca, l'anatomie, etc. Et en fait, c'est vraiment en me spécialisant dans le coaching que j'ai commencé à comprendre en fait la nutrition. Et je me suis dit qu'en fait, tout ce que j'avais fait, c'était une cata. Et en fait, que j'avais pas envie que les jeunes aujourd'hui reproduisent ça.
Ouais.
Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je l'enseigne un maximum. Et c'est pour ça aussi que j'ai ouvert mon compte Insta. Et...
c'est ce que j'allais te dire.
Voilà.
Après, il y a une forte percée sur les réseaux. Tu as une énorme communauté sur Instagram, notamment. Ouais. C'était cette envie de pédagogique d'expliquer justement, de vulgariser la nutrition un petit peu.
En fait, c'est vraiment l'objectif principal. C'était de vulgariser, de rendre accessible à tout le monde. Parce que c'est vrai que la nutrition, on a un peu l'impression que c'est facile, que les grands concepts sont accessibles à tout le monde. Mais... moi, j'ai fait pas mal d'interventions dans des écoles, chez des lycéens qui savent même pas, par exemple, à parler de la différence entre un concombre et une courgette. C'est vrai, hein, je te jure. Non, mais c'est quand même assez hallucinant.
Ah ouais.
Et tu vois que l'éducation des jeunes est vraiment pas du tout orientée. En fait, il n'y a pas de cours de...
il n'y a pas de cours, non, c'est vrai.
À l'école, tu n'as pas de cours de nutrition, on t'apprend pas à bien manger.
Mmh.
C'est censé être évident alors que ça ne l'est pas, en fait.
Ah ouais, t'as les idées reçues systématiques, qu'il faut manger du riz, des pâtes, ce genre de choses.
C'est ça, exactement.
Manger beaucoup de légumes, mais ça va rarement plus loin que ça, quoi, c'est vrai.
Ouais.
Donc, c'est. L'aspect nutritionnel, tu t'y intéressais quand, toi, Johan, dans ta carrière? Est-ce que tout de suite, ça a été un élément fondateur? Est-ce que non, tu as pris ça un peu par-dessus la jambe?
Non, bah ouais, je l'ai pris par-dessus la jambe jusqu'à que je me rende compte à la vingtaine d'années, tu vois, quand tu as tes premières sélections en équipe de France et que tu dois encore passer des paliers et que tu te rends compte que chaque détail compte à haut niveau et que à un moment donné, on s'entraînait presque tous de la même façon, le même nombre d'heures d'entraînement et tout. Et après, ce qui fait la différence, il y a certes le talent de base, mais aussi tout ce que tu vas mettre à côté. Donc l'alimentation a commencé à rentrer en ligne de compte. Et donc là, j'ai commencé à faire attention. Mais je me rappelle très bien de mes premières années en cadet junior. Je rentrais de l'école, je mangeais une chocolatine, enfin, ou un pain au chocolat chez vous là. Et je mangeais ça et après j'allais courir. Mais enfin, quand j'y pense aujourd'hui, je trouvais c'est une aberration. Je mangeais les BN là, les je sais pas comment ça s'appelle, les trucs,
c'est
les gâteaux vraiment purement industriels. Je mangeais ça et derrière je mettais mes chaussures, j'allais courir. Et tu vois, et pourtant, j'ai fait des podiums au championnat de France. Ça m'a amené en équipe de France et tout. Mais jeune, en cadet junior. Et en course à pied, la problématique, c'est que... Enfin, vu qu'on n'a pas de... Moi, j'ai jamais eu de problème de poids avec de surpoids ou quoi que ce soit. J'ai toujours été fin et tout. Bah, ça m'a jamais posé la question. Tu vois, jamais mon coach m'a dit « Ouais, fais attention à ça. » Il savait pas que je faisais pas, le taf. Mais à un moment donné, je me suis vite rendu compte que si je voulais percer et durer, il fallait bien manger, ouais.
Après, il n'y a pas l'obsession dans ton sport du poids et de la mesure comme ça, d'un point de vue des kilos, quoi. C'est-à-dire que toi, Elliot, tu es sous les 55 systématiquement. Toi, Johan, que tu pèses 61 ou 62 au départ d'une course, ça a peu d'incidence. Tu vas pas être disqualifié parce que tu as un kilo de plus. Non. Quoi. Donc, c'est peut-être aussi la différence par rapport à ça.
Ah oui. Ouais, puis à cet âge-là, je pense que aussi, ça a moins d'incidence sur toi, tes blessures, sur tes performances quand tu as 20 ans que quand tu en as 10 de plus ou 15 de plus.
Toi, tu t'y intéresses. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années déjà, tu fais très attention à ce que tu manges ou tu te permets comme ça un peu de cheat meal, un peu de...
Alors, je suis un peu le mec chiant, c'est-à-dire que je mange vraiment de moins en moins de choses transformées, j'essaie d'avoir de plus en plus, mais c'est parce que c'est un plaisir pour moi.
Ah, d'accord.
Mais je suis inévitable, c'est-à-dire que je suis végétarien, je mange quasiment pas de gluten.
Végétarien,
ouais, d'accord. Je suis végétarien. Ouais.
Okay.
Je mange quasiment pas de gluten, je fais hyper attention à tout, je mange pas de sucre, enfin vraiment j'essaie mais c'est pas une question de performance hein, c'est vraiment pour mon bien-être, pour ma santé, pour parce que le problème c'est
parce que
quand
tellement intéressé dans le sujet que
tu sais
dis,
en fait, quand tu sais t'as plus envie de... Non mais c'est vrai, c'est vrai.
Moi, je préfère ne pas savoir, désolé. Merci Elliot.
Quand tu vois un bel abattage de poulet, ça te donne pas
non,
envie.
Non mais au-delà de la viande, ça veut dire que c'est... quand tu vas au resto, quand t'es invité quelque part, c'est vrai que ça doit être pas une épreuve pour toi, mais c'est un moment particulier quoi.
Ben maintenant j'y arrive assez facilement et puis vu que... Ma copine fonctionne de la même manière, du coup on est à deux, à fonctionner comme ça c'est plus facile, tu vois, quand t'es tout seul c'est plus compliqué.
Alors, est-ce qu'on peut dire que tu l'as convertie? Est-ce que c'est toi qui l'as emmenée là-dedans?
Non, je l'ai rencontrée, elle était déjà végétarienne.
Ah, déjà donc... c'est elle alors. Ok, alors on va rentrer dans le vif du sujet, déjà une question toute simple, est-ce qu'il y a une alimentation spécifique du sportif et une alimentation spécifique du coureur à ton avis? Est-ce que... vu le sport pratiqué, il faut adapter ce qu'on mange déjà.
Il y a une alimentation générale, c'est-à-dire l'alimentation équilibrée.
Ouais.
D'ailleurs, on dissocie un peu, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais alimentation équilibrée, alimentation saine. Je sais pas si tu vois un peu la différence.
Bah oui, ça veut dire manger que des choses saines ou alors manger un peu de tout, c'est ça, non ?
Bah tu peux manger très équilibré mais pas manger sain.
Ouais.
C'est-à-dire que tu peux manger très équilibré, ça veut dire manger les bons macronutriments comme il faut.
Mais des matières grasses même.
Si je te donne un exemple bête, tu peux aller très bien manger tous les jours... Oui, voilà, exactement. Tu peux manger tous les jours, par exemple, un filet au fish chez McDo, qui est une composition qui est à peu près correcte, mais en soi, tu as tellement d'additifs, de sucre ajouté, etc., que voilà, c'est pas forcément bon pour la santé. Après, est-ce qu'il y a une alimentation du sportif ? Ouais, c'est l'alimentation équilibrée, adaptée à ton activité, finalement. Un judoka avant une compétition ou à quelqu'un qui va courir un 100 ou un 400 va pas manger exactement la même chose que quelqu'un qui va partir sur un marathon.
Ouais. Ok, donc oui, il y a quand même des spécificités pour, pour chacun, des règles à respecter. Autre question qu'on se pose, parce que tu as sorti un livre là-dessus d'ailleurs, on pourra le faire gagner, merci à toi Elliot, c'est Fit and Body Change, qui est très bien fait, qui est très pédago d'ailleurs, c'est très bien expliqué, c'est bien documenté, il y a des recettes de cuisine à la fin.
Tu vois, on peut bien manger.
Des plans de musculation, il y a des trucs, franchement, écoute, ça donne envie, c'est vrai. Quand on pense comme ça, alimentation, etc., toi, tu mets en place des régimes particuliers et tout. C'est vrai que tout de suite, ça donne dans l'imaginaire l'idée du gars qui, ou la fille qui pratique la musculation. C'est vrai que c'est un truc de fan de muscu, comme ça, le shaker, le machin et tout. Mais non, en fait, il faut un peu, pas le désacraliser, mais démonter cette idée reçue aussi, finalement, non ?
Bah oui, t'as pas besoin... Tout ce que tu veux dire, c'est que en gros, les personnes qui mangent super sain, c'est les personnes qui veulent avoir une shape d'enfer.
Ouais, les personnes affûtées, les personnes qui visent vraiment une musculature qui ressort, tu vois, et savent exactement qu'il faut manger tant de protéines, les œufs, l'importance de tout ça, etc.
Ouais, mais on va dire qu'il y a plutôt un stéréotype autour des protéines, justement, à la musculation, alors que c'est pareil, il y a un stéréotype vachement autour des glucides aussi, je trouve, en course à pied.
Ouais.
Et je trouve que chaque sport un peu a son. Tu vois, le trailer, ça va être un peu les lipides. Enfin, j'exagère. Hein,
l'obsession des pâtes pour le coureur.
Voilà, c'est un peu ça, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Mais alors. Donne-nous les règles de base, déjà. Voilà, c'est quoi bien manger, déjà ?
Bien manger, c'est avoir un bol alimentaire complet. Ça veut dire un bol alimentaire complet, ça veut dire que tu as tes protéines, tes glucides et tes lipides en quantité raisonnable.
Ouais.
Généralement, pour vulgariser, hein, ça va être propre à chacun, mais en gros, tu prends une assiette, tu la coupes en quatre
50%. Ça, c'est bien expliqué dans le livre d'ailleurs. On a les bonnes photos, ouais. Et c'est tout de suite parlant. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai.
T'as 50% qui est dédié à tes glucides. Donc les glucides, ça va être pâtes, riz, pommes de terre, etc. Le pain, on va pas rentrer dans les détails. T'as un quart qui est réservé aux légumes et un autre quart qui est réservé aux protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Et après, t'as ton petit assaisonnement, crème fraîche, huile d'olive, beurre ou autre. Quoi.
Tu conseilles les glucides dès le petit déjeuner hein, d'ailleurs. Ça, on en a déjà parlé, mais il faut, c'est important.
C'est vrai que c'est pareil, il y a un peu une idée reçue comme quoi le petit déjeuner, c'est un repas qui doit être différent des autres. Alors qu'en fait, c'est un repas comme les autres. C'est juste que pour la plupart des gens, c'est quand même plus agréable de manger sucré le matin.
Par habitude.
Parce que ça passe mieux aussi. Ouais. Et puis parce que c'est aussi une habitude qui est aussi très française. Hein.
Ce qui est intéressant avec tes vidéos, c'est justement quand toi-même tu vas faire tes courses, que tu choisis les produits, tu regardes ce que tu évites absolument. Tu parlais d'additifs tout à l'heure. Tu choisis aussi des matières grasses de qualité. Ça aussi, ça paraît tout bête.
Ouais.
Mais quand tu mets de la matière grasse pour donner du goût aussi et du liant et de la saveur, là aussi, on peut faire les bons choix d'entrée. Quoi. On n'est pas obligé de se ruer vers les trucs qui sont mauvais pour la santé. Quoi.
Exactement. Mais il y a des choix à faire aussi en fonction de ce que tu vas cuisiner. Par exemple, une huile d'olive, elle n'est pas du tout adaptée à la friture ou à la cuisson à haute température.
Ouais.
L'huile de coco qui est vachement vantée aujourd'hui, on dit que c'est incroyable, c'est quand même bourré d'acides gras saturés. Finalement, c'est pas si bon pour la santé que ça.
Ah, ok.
C'est pas si bon pour la peau non plus que ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup. On est dans une époque où il y a beaucoup de modes. Tu vas voir la mode de l'avocado toast, la mode de l'huile de coco, Et en fait, ces choses-là, elles sont pas forcément meilleures pour la santé que d'autres.
Ouais.
Des fois, il faudrait un peu qu'on revienne à l'essentiel. Tu vois, par exemple, les glucides, la pomme de terre, c'est un des aliments les moins chers qui existent et c'est un super aliment. Quoi.
Mais parce que pour les gens, la pomme de terre, c'est la frite ou c'est la.
Exactement ça.
La pomme rissolée, chips, et c'est tout de suite synonyme de gras et de sel, finalement, peut-être.
Exactement. Mais ouais. En fait, on est vu qu'on est toujours à la recherche de la recette miracle. On va toujours chercher compliqué et on va chercher toujours des choses qui n'existent pas trop ou alors qui sont très chères et inaccessibles parce qu'on pense que c'est des choses qui vont nous apporter une plus-value.
Ça aussi, c'est une vraie question. C'est tout de suite, quand on dit mieux manger, on pense au bio. Tu pourras nous en parler tout à l'heure, mais le bio, ça a un coût. Tu le dis toi-même dans ton
Bien
livre,
sûr,
mais
ouais.
La santé n'a pas de prix. Je crois. C'est la formule que tu as choisie, donc c'est assez révélateur. Johan, t'es vigilant quand tu fais tes courses au choix des produits ou pas plus que ça non plus?
Bah après, moi, j'ai la chance de, quand je suis chez moi à Montbazillac, d'avoir mes parents et mes grands-parents avec un poulailler, tu vois, les canards, les poulets, les dindes, tout ce que je peux manger comme viande, ça vient de chez eux, tu vois, même les œufs, enfin le jardin l'été, tous les melons, tomates et compagnie que je mange, c'est vraiment les trucs du jardin de mes parents, donc je sais de la provenance. Et ça, c'est quand même une chance parce que, un, ça coûte cher et deux, je sais exactement ce qu'ils y mettent et à quoi les poulets ils sont élevés, tu vois, et les canards et compagnie. Mais ça, c'est parce que j'habite à campagne. Mais oui, je fais attention, ouais. Je fais attention, mais je fais surtout attention dans mon alimentation, dans la préparation, à respecter on en a parlé tout à l'heure, mais les glucides, les féculents, la part de protéines, à bien recharger. Toujours de façon simpliste, hein, mais à recharger en glucides, en féculents, en protéines et en tout, après des séances d'entraînement difficiles, de manger pas mal de fruits et de légumes de saison, d'assaisonner avec les bonnes sauces. Moi, j'évite vraiment tous les plats industriels, je mange pas. Les charcuteries, j'évite. Les plats en sauce lourds et tout, c'est pareil. C'est des choses que je prends pas. Oui, t'es quand même obligé de faire attention quand tu fais du haut niveau. Ouais. Mais c'est surtout, après, c'est dans la qualité des produits.
Eh oui.
Mais c'est pareil, le problème, c'est, il l'a dit, ça peut coûter cher, mais voilà, moi, mon corps, moi, est mon outil de travail. Donc, en fait, je suis obligé d'investir dans mon outil de travail, en gros.
La qualité du produit, qualité de la viande, c'est essentiel, ça, Eliott.
Ah oui, totalement, totalement. C'est pas parce que moi, je suis végétarien que
Non, mais
je le dis parce que je sais pas parce que je suis végétarien que
personnel.
Je prône le. Moi, je le fais vraiment par éthique.
Ouais.
C'est pour moi,
ouais.
Pour le bien-être animal. Mais
végétarien,
par contre,
ça veut dire que tu consommes tout de même des produits laitiers et des œufs. T'es pas vegan ou végétalien, c'est
le
ça.
Le gros problème, c'est que je suis hyper intolérant au lactose. Donc, en fait, je peux
Donc,
en fait, il me reste que les œufs.
Ouais.
Et ça m'arrive très exceptionnellement aussi de manger du poisson. Donc, voilà, j'ai fait ma transition entre guillemets il y a 2 ans. J'ai arrêté complètement la viande. J'ai jamais retouché un morceau de viande depuis 2 ans.
Ok.
Et le poisson, j'ai dû 3-4 fois de temps en temps. D'accord. C'est vraiment exceptionnel.
Ok.
Voilà.
Et oui, donc on disait le choix des produits, c'est essentiel. Le choix de la viande, la viande de qualité. La viande de notre région, peu importe où on vit d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
La fraîcheur des produits, quoi.
Déjà. Pour l'environnement, c'est quand même mieux de choisir local.
Aussi.
Et puis pour la santé, mais c'est surtout pour la santé long terme. Parce que si on parle d'un point de vue purement performance, le principal, c'est de manger équilibré, c'est-à-dire de choisir les bons macronutriments, de recharger en glucides quand on a fait une séance difficile, voilà, d'adapter son alimentation en conséquence. Ouais. Par contre, si tu veux viser long terme, il faut plutôt s'atteler à vérifier s'il n'y a pas trop d'additifs, à manger plutôt local, à manger plutôt bio. C'est-à-dire que si deux coureurs ont la même alimentation, l'un bio et l'autre pas bio, ça ne va pas changer grand-chose sur les performances en soi.
En revanche, sur le long terme, oui.
Voilà, sur la durabilité par contre de la personne, peut-être un peu plus, quoi.
Ouais,
sur peut-être les blessures.
Là, c'est de la santé générale.
Ouais, c'est de la santé générale.
Ouais. Ah ouais, ok. Non, mais tout ça, c'est des sujets intéressants. Là, on a parlé des plats préparés. Il y a c'est très développé dans les grandes villes, hein. Les chaînes de restauration, justement, de plats surgelés. On peut en citer quelques-unes. Picard, par exemple. C'est vrai que c'est une habitude pour certains Parisiens ou pour d'autres dans les grandes villes.
Ouais.
C'est la facilité. Bravo. C'est la facilité aussi. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. C'est-à-dire que c'est forcément mauvais ou que tu peux retrouver de bonnes choses. Je sais pas, moi, je pense à des sachets de légumes vapeur, ce genre de choses. Ça peut être très bien aussi conservé. Est-ce qu'il y a forcément du mauvais dans tous ces plats? Alors, dans tout ce qui est surgelé?
Déjà, il y a, pareil, encore une fois, une énorme idée reçue sur le fait que manger surgelé, c'est pas bon pour la santé.
Ouais.
Il faut savoir que dans la plupart du temps, si je parle des produits qui sont le moins transformés possible,
ouais,
manger surgelé, c'est même souvent bien meilleur que manger frais. Parce qu'en fait,
okay.
Généralement, il faudrait manger ses légumes et ses fruits juste après la cueillette, chose qu'on ne fait jamais, on n'a pas tous la possibilité de le faire, encore moins à Paris.
Par Yohan, mon basiac.
Ah non, mais vraiment, ouais.
Ah oui.
Généralement, les empaquetages dans les produits surgelés, en fait, le processus de congélation a lieu hyper proche après la cueillette, et du coup, en fait, toutes les vitamines, les minéraux et tout ça sont conservés.
Donc les légumes comme ça dont je parlais, c'est plutôt bon, de bonne
c'est
qualité.
C'est plutôt même meilleur pour la santé que des fruits et légumes que tu
vas
acheter.
C'est mieux qu'une conserve de légumes, par exemple.
Ah, c'est bien meilleur.
Okay.
C'est bien, bien meilleur. Tu perds tout dans une conserve. La conserve, je pense que c'est le pire. Ça
D'accord.
baigne dans un jus de conservation, ouais, et toutes les vitamines, en fait, elles s'en vont dans le jus que tu enlèves. Donc au final,
boire le jus.
Bonnes infos, quoi. Voilà. Bon bah, écoute, hein. Tout ça, ce sont des bonnes infos. Autre sujet qu'on voulait aborder, ton avis sur la caféine, parce que ça, c'est pareil, on est tous beaucoup d'entre nous sont des gros consommateurs de café.
Ouais.
Toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu buvais pas de café, d'ailleurs.
Je ne bois pas de café, oui.
Pas de café non plus. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que c'est nocif? Parce qu'il y a différentes études là aussi, hein, la caféine, c'est considéré comme bon chez certains, mauvais chez d'autres. Qu'est-ce que tu...
C'est peut-être pas la réponse que tu vas attendre, mais tu sais, en nutrition, il n'y a pas de vérité générale. En fait, il y a plutôt une vérité individualisée, c'est-à-dire que c'est propre à chacun.
Ouais.
Il y a des gens qui vont hyper bien tolérer la caféine, comme il y a des gens qui vont hyper bien tolérer, par exemple, 100 grammes de glucides, je pense à Kipchoge par exemple, d'autres non. Donc en fait, ça va être surtout propre à la personne si elle la tolère ou pas. Et encore une fois, c'est une question d'équilibre. Si tu consommes tous les jours et beaucoup trop, évidemment que c'est mauvais pour la santé.
Ouais.
Après, si tu bois un ou deux cafés par jour, ça n'aura aucune incidence sur ta santé.
Yodu, t'es un gros consommateur de café, toi?
Je le deviens, c'est un truc de fou. Ah. C'est le confinement qui m'a fait basculer, moi. Le confinement, je m'ennuyais tellement que je me suis mis à boire du café.
Avant, non.
Et maintenant, je suis obligé de boire du bon café. Tu vois, j'ai acheté une vraie machine.
Et t'en buvais pas avant?
Bah, pas tant que ça, non, pas tant que ça.
Ok.
J'en buvais comme ça, un par jour et encore pas tous les jours. Mais là, maintenant, c'est le matin, le midi après manger. Et puis, dès que tu vas à un endroit qu'on te propose un café, j'ai du mal à dire non. Ouais.
Mmh. C'est un peu une drogue, t'en ressens le besoin.
C'est exactement ça, ouais. C'est devenu une addiction un peu.
C'est
dur
de sevrer de café. Ouais. C'est vrai, pour les gros consommateurs, c'est toujours un peu particulier. Des produits à bannir, quand même, quoi qu'il arrive. Est-ce que le soda, c'est forcément mauvais? Tu sais, on a tous ces petits plaisirs parfois de prendre un soda.
Ouais.
De craquer entre guillemets, c'est pas non plus
c'est pas grave,
voilà, extrêmement grave. On a l'image des Kenyans aussi, je sais pas si t'as vu ça, mais en gros au Kenya, quand tu sors d'une grosse sortie en groupe, chacun s'ouvre un soda, ça paraît dingue parce que c'est les athlètes les plus affûtés au monde, et
c'est
tout de suite premier réflexe, c'est de se faire plaisir et de se réconforter avec un soda.
Et c'est comme la bière, enfin
c'est ça.
Voilà,
est-ce qu'il y a des choses à bannir vraiment ou pas forcément?
Mais bannir ça voudrait dire ne jamais en consommer. Donc bannir, non, il n'y a rien à bannir, si ce n'est, on peut dire, les acides gras transformés. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que c'est, les acides gras transformés. Ça va être vraiment en gros, quand tu vois écrit mono et diglycéride d'acide gras derrière une étiquette.
Comment tu dis?
Mono et diglycéride d'acide gras.
Ok, ça on évite.
Non, mais en gros, c'est des additifs où on va venir transformer les graisses en fait pour améliorer la conservation, texturer le produit, etc. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment éviter parce que c'est hyper mauvais pour la santé. Et,
Le soda, pas forcément. Enfin, c'est pas très bon sur le long terme.
Tout ça, c'est toutes les calories liquides sont mauvaises pour la santé sur le long terme. Et évidemment, si t'en consommes un par jour, c'est mauvais parce qu'en final, t'as pris une habitude d'en consommer tous les jours, donc c'est pas bon.
Ok.
C'est sûr que c'est mieux de le limiter, mais c'est plutôt cool de ne pas en boire du tout. Toutes les calories liquides, je pense que c'est le plus dangereux en fait. Parce que si on prend l'exemple par exemple d'un coureur, un coureur semi-marathonien, marathonien, il n'aura jamais trop de soucis normalement dans une prépa avec une perte de poids, puisque généralement quand tu cours 50, 60 ou voire plus de kilomètres, généralement tu brûles tellement de calories que tu peux pas en ingérer suffisamment pour prendre du poids.
Ouais.
Mais par contre les calories vides, donc les calories liquides, vont avoir un vrai problème parce qu'en fait elles sont vides de tout. Et en fait, elle t'apporte que des mauvaises choses. Donc
J'ai très peur de ta réponse parce que ça peut remettre en cause toute ma vie. Moi, je suis un obsédé du sucre. Partout. Le sucre, partout. Alors souvent sirop d'agave dans le café, j'essaye de varier, tu vois.
Ah, le sirop d'agave.
Je me dis que c'est peut-être meilleur, mais tu me diras. Justement. Oh là, il va me le détruire.
c'est mort.
Non. Et le pire, c'est l'obsession, moi, du sucre dans tout jusqu'aux boissons. Donc moi, j'ai un peu arrêté le soda, etc. Mais là, tu vois, j'ai une gourde devant moi.
Ok.
Il y a du sirop dedans. Du sirop hyper. Oh là, la tête qui ouais,
c'est pire, quoi.
C'est le sirop industriel avec un goût particulier. Et
à
tout.
La menthe.
Okay. J'ai même poussé le truc.
Mais pourquoi de... Parce que.
Pourquoi? Je sais pas. Bah, écoute, j'ai même du sirop chez moi, mojito fraise. Donc t'imagines.
Ah oui, c'est beau.
Comme...
c'est beau.
Non, ça, c'est très mauvais pour la santé, les
ce
sirops.
Ce soir, ils jettent tout.
Sirop de menthe, sirop de fraise, tout ça, c'est très
mauvais. Tous les sirops, c'est un peu la. Désolé, c'est un peu la pire chose, en fait, parce que c'est.
Non, pas ça.
En fait, t'as les deux côtés mauvais. C'est-à-dire que tu t'apportes des mauvaises calories qui te servent, entre guillemets, à pas grand-chose.
Ouais.
Sauf ça pourrait être utile éventuellement après une course, tu vois. Mais voilà, là, t'es pas en train de courir.
Ouais, c'est vrai.
Et ça a le côté inutile de la non-satiété. C'est-à-dire que vu que c'est des calories liquides, en fait, ça t'apporte aucun sentiment de satiété. Mmh. Donc en fait, tu peux avoir faim toute la journée, mais avoir consommé sans t'en rendre compte, je sais pas, 1000 calories de sucre dans la journée, j'exagère. Hein.
Ouais.
Et en fait, juste consommer tes repas à côté, et au final, tu vas être en excédent calorique total. Au final, tu vas prendre du poids, ou c'est pas prendre du poids, développer du diabète, cholestérol, enfin des choses... Pas très cool, quoi.
Ok, et puis là, c'est bourré d'additifs, j'imagine.
Bah, pas forcément, non, tu peux avoir un sirop, mais bon, le sucre, c'est du sucre. Hein.
Ouais.
À haute dose, ça reste mauvais pour la santé.
T'as pas d'obsession comme ça quotidienne, toi, Yodu, à part le café, y a pas quelque chose, un petit plaisir que tu te fais tous les jours?
Courir. Non, à part écouter les podcasts d'RMC Running, voilà. Tu vois, c'est mon seul plaisir de ma journée.
Mythos,
non, non, j'ai pas de trucs comme ça, non, non. Là-dessus, ça va.
Et d'ailleurs, j'aime beaucoup dans ton livre parce que tout le monde pense, et là aussi c'est une idée reçue, que tous les jus de fruits sont excellents pour la santé. Et là, toi, tu dis méfiance aussi.
Ouais,
alors, ça dépend les jus, on peut les faire soi-même, et là, c'est beaucoup mieux.
Ouais.
Mais méfiez-vous des jus de fruits là aussi.
En fait, les jus de fruits, c'est en fait quand tu prends un fruit et que tu le presses, tu enlèves tout ce qui est mauvais du fruit pour le mettre dans ton verre.
Ouais.
C'est un peu l'image.
Ouais.
C'est-à-dire que tu gardes aucune fibre, aucune vitamine, aucun. Enfin, et t'as pas ce sentiment de. Enfin, tu mâches pas en fait. Mmh. Du coup, t'as encore pas ce sentiment de satiété. Il y a plusieurs études qui ont été faites, où je sais pas si tu l'as mis dans le livre d'ailleurs, où en fait t'as des Américains qui ont mis dans une casserole d'un côté du coca, de l'autre côté du jus d'orange. Ils l'ont fait monter à ébullition et en fait ils ont récupéré le résidu de sucre. Et en fait, le résidu de sucre est beaucoup plus important dans le jus d'orange que dans le coca.
Ah ouais, ça paraît dingue quand tu le dis.
Donc,
comme ça, c'est vrai. C'est...
Voilà,
l'idée aussi, c'est le coca, le sucre à outrance, et finalement, il y en a autant dans le...
En fait, il y en a autant. Ouais. Et en fait, on a pareil cette mauvaise image du fait que dès que ça vient de la nature, c'est forcément meilleur pour la santé.
Ouais.
Alors que pas du tout, tu vois.
Alors là aussi, élément très important. On parlait de glucides tout à l'heure, et ça, c'est bien exposé aussi, l'importance... des pâtes notamment et du riz complet, voilà, éviter, enfin en prendre un maximum. Moi j'en parlais pour ne rien te cacher avec un footballeur qui s'appelle Younis Abdelhamid, qui est le capitaine du Stade de Reims,
okay.
Qui a 38 ou 39 ans aujourd'hui, qui est encore un des joueurs majeurs de cette équipe. Il joue en Ligue 1, il a enchaîné en Ligue 1 je crois 75 matchs d'affilée sans se blesser, tu vois, il avait vraiment un record impressionnant. Et moi j'avais fait justement une thématique avec lui en disant bah, comment tu fais, quel est le secret de ta longévité, etc. Et il m'a vidé, bah, c'est ça par exemple. Moi,
il consomme que des féculents complets.
Je mange beaucoup de légumes, mais surtout tout ce qui est pâte et féculents, que du riz et des pâtes complètes. Ouais,
alors, attention, encore une fois, j'aime bien parce que je.
Ah, enfin, non, mais... lui, c'est, ce qui, lui,
ouais,
c'est
ouais,
son
ouais.
Secret. Alors, est-ce qu'il n'y avait que ça? Je pense pas. Il y a toute une
non, non,
de
mais
vie
bien
à côté.
Sûr. Mais je remets en perspective ça aussi parce que c'est important. Tous les organismes ne sont pas capables de digérer des pâtes complètes tout le temps.
Mm-hmm.
Et par exemple, je pense, Johan confirmera ou pas, mais manger un plat de pâtes complètes avant de faire une course, c'est quand même pas trop une bonne idée.
Ah, c'est dur à digérer.
Parce que c'est hyper dur à digérer.
Ouais. Tu manges des pâtes complètes, toi?
Non, riz et pommes de terre deux jours avant veille et avant veille. Bah, je préfère le riz, ouais, on m'a toujours dit. Et puis, c'est vrai que le côté gluten, à un moment donné, tu vois, je sentais des inconforts un peu digestifs.
Gastrique,
avec le stress de la course et tout.
Ouais.
Et c'est vrai que je préfère limiter et me contenter sur le riz. Et puis, surtout, le riz a cette capacité aussi à un peu plâtrer votre intestin quand arrivez sur une course comme un marathon où vous êtes en stress et où vous allez aux toilettes pendant deux jours. Du coup, ouais, moi, je m'oriente riz et pommes de terre vapeur avec blanc de poulet et puis compote, banane.
Le riz, c'est meilleur que les pâtes?
Bah ouais, parce que déjà, ouais. On oublie, mais les pâtes, c'est un produit transformé.
Ouais, bah c'est ça.
Déjà, ouais. Le riz et les pommes de terre, c'est un produit brut. Mmh. Et effectivement, ça contient pas de gluten. Et le gluten, c'est quand même pro-inflammatoire. Donc encore une fois, il y a des gens qui le digèrent mieux que d'autres. Mais ça va avoir des... enfin, sur le long terme, ça peut te provoquer des problèmes tendineux, intestinaux. Surtout quand tu es sur une course qui est assez longue comme un marathon, ça peut vite te créer des désordres intestinaux, même des douleurs articulaires.
Hein. Donc si toi, t'avais des conseils comme ça à donner sur à ceux qui préparent une course longue, sur les 48 heures d'avance, c'est ça, c'est ce que disait Johan, privilégier le riz comme ça sur des,
ouais,
des repas.
Si vraiment tu veux avoir une alimentation hyper clean, ouais. 48 heures avant, déjà il faut orienter son régime un maximum vers les glucides. Il va falloir limiter tous les apports de gras. Ouais. Je dis pas bannir, hein, mais il faut limiter l'apport de gras parce que c'est très lourd à digérer et ça se digère des fois même sur plusieurs journées. Il faut pas aussi négliger le côté protéines parce que c'est vrai qu'en course à pied, à l'inverse de la musculation, on a tendance à négliger vachement les protéines et on pense vraiment que le matin avant sa course, ou en tout cas les deux jours avant, il faut bouffer que des pâtes. Mais les protéines, c'est hyper important parce qu'il y a une destruction musculaire qui est énorme pendant une course et les protéines te permettent de récupérer, de reconstruire.
Qu'est-ce que tu penses du... Bah, tu dois le connaître forcément parce que tu es un spécialiste du sujet, mais nous, on a déjà parlé brièvement, mais le RDS, le régime dissocié scandinave. Ça, c'est un truc très, très courant chez les coureurs. Je ne sais pas si tu le pratiques encore, d'ailleurs, Johan, pour vulgariser un peu ceux qui découvrent ça. En gros, c'est épuiser les réserves de glycogène musculaire. Là, on parle de 7 ou 8 jours avant la course.
Ouais.
Donc, on vide les réserves. On les recharge ensuite à bloc à partir du mardi ou du mercredi et on dit qu'on est plus performant le dimanche. Est-ce que ça, c'est une vérité? Est-ce que c'est une idée reçue, là aussi, à ton avis?
Mais je pense, je suis désolé, mais que c'est une idée reçue. Ouais. Il n'y a aucune étude, d'ailleurs, qui prouve qu'il y a un réel impact sur la performance. Okay. Je pense que ça... Le fait de sacraliser un petit peu et de ritualiser...
Il n'y a aucun intérêt de tout vider pour regonfler, enfin, recharger les stocks à bloc. Ça, c'est une idée débile.
Je pense que ça peut... Enfin, je pense qu'il y a des... Je pense vraiment que c'est plus psychologique que physiologique. Mm-hmm. Et comme je te dis, je pense que c'est vraiment le fait de ritualiser en fait une avant-course qui va te permettre un peu de te focus en fait sur le fait que tu as une compétition. Et en fait, je pense que ça te met dans un cadre compétitif et ça te permet peut-être d'être un peu plus performant, en tout cas d'être plus
focus.
Parce que
tu te dis, je fais cet effort-là, voilà, là, je suis vraiment dedans. Etc.
Ouais, puis je pense que tu conditionnes même inconsciemment ton cerveau, parce qu'en fait, tu répètes quelque chose, tu répètes un schéma et du coup, ton cerveau en fait s'habitue à ce schéma, il se prépare.
Ça y est, je me mets en mode compétition.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ouais, il y a aucune réelle étude qui montre un impact vraiment positif sur la performance du RDS. Donc,
Tu vas le faire, Yodu, avant Valence?
Ouais, alors après, moi, je le fais pas à 100% et, parce que sinon, il est trop contraignant et c'est compliqué à mettre en place. Et puis, l'organisme, tu restresses un organisme déjà un peu stressé par la préparation, déjà un peu stressé par la course qui arrive. Et comme ça, t'enlever carrément les sucres pendant 3 jours, c'est vraiment, pour moi, c'est trop compliqué. Et puis, d'un point de vue intestinal, quand tu vas reprendre après derrière, c'est pas simple, mais ouais, je vais le faire, mais à ma façon, dont j'ai l'habitude maintenant. J'ai déjà couru 6-7 marathons et donc c'est le faire, mais en acceptant des petites tranches de pain au petit déjeuner, certains fruits après l'effort, des choses comme ça. C'est vraiment, j'ai
c'est
ma petite
brutal,
façon de le faire. Ouais, j'ai mes habitudes et puis après, je reprends. Jusqu'au vendredi avec un tiers de plus de féculents et le samedi je reviens à des portions normales. Ouais.
Et du coup, d'un point de vue purement empirique, toi Johan, puisque tu le pratiques depuis longtemps je suppose, est-ce que tu as le sentiment que ça a vraiment un impact sur toi, sur ta performance, ou est-ce que...
Bonne question. Alors comme tu l'as dit, hein, c'est peut-être ne serait-ce que psychologique cette façon de faire et le fait de ouais, après le dimanche sur ta dernière sortie à J-7 avant l'épreuve, te dire bon ben voilà, maintenant c'est 3 jours de régime et quelque part t'es déjà tu prépares ton cerveau mentalement à un dernier effort avant le marathon, et peut-être que c'est vraiment que l'aspect psychologique qui joue, mais je me suis toujours trouvé bien le dimanche, donc voilà, je préfère ne pas changer mes habitudes, mais voilà, après je comprends tout à fait qu'il y ait des gens pour qui il n'y en a pas forcément le besoin. Ouais. Après, c'est vrai que nous, on court à peine 2 heures d'effort aussi. Hein.
Ouais. Oui, oui, oui.
Comme nous.
En 2 heures, c'est réglé. Donc
c'est vite réglé le marathon, ça c'est sûr.
Normalement, en 2h09, on est à la douche.
Voilà. Il y a un autre aspect très intéressant dans ton livre, c'est ta méthode de course. Le batch cooking est ta méthode d'organisation pour régler justement les repas de la semaine. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps comme ça de faire les courses avec une liste prédéfinie et savoir ce que tu vas manger la semaine qui arrive. C'est-à-dire que tu prépares, tu organises tes repas, tu ne fais pas des courses à l'envie comme on fait à peu près tous. Et le lendemain ou quand tu as du temps, là, tu cuisines vraiment et tu te fais une sorte de tupperware dans le frigo comme ça. Et tu sais à peu près sur quoi tu pars sur toute la semaine. En fait.
Ouais, c'est hyper bien de faire du batch cooking, je trouve, parce que déjà, on n'a pas tous le budget pour avoir une alimentation hyper variée, hyper équilibrée et bio. On n'a pas tous la possibilité aussi d'être athlète, enfin la possibilité si, mais on n'est pas tous athlètes de haut niveau et du coup on n'a pas tous notre vie qui est dédiée au sport et à la nutrition. Donc du coup en fait le fait de faire du batch cooking, ça permet d'avoir un gain de temps et ça permet aussi de planifier ses repas et de savoir du coup sur la semaine aussi comment tu vas composer tes repas et comment tu vas répartir tes nutriments sur la semaine.
Ouais. Donc, tu le pratiques ça Yodu ou pas?
Ouais, j'essaie quand même de faire, de réfléchir à ce que je vais manger en fonction de mes séances et de faire les courses en fonction de ça, tu sais, parce que l'entraînement, bah, je sais que j'ai mes séances mardi, jeudi, dimanche. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, de faire des repas pré-compétitifs avant les séances et après les séances, et après autour d'englober. Mais non, mais après, par contre, j'écris pas genre lundi, je vais manger ça, samedi, je vais manger ça. Mais je sais à peu près par rapport à mes séances d'entraînement. Ouais.
Vas-y,
je vais juste te poser une question parce que tu es quand même athlète de haut niveau, toi. Donc, on se dit toujours dans l'imaginaire collectif qu'un athlète de haut niveau fait vraiment gaffe à tous les détails pour avoir des gains marginaux un maximum. Et toi, tu calcules un peu le nombre de calories que tu consommes sur une semaine? Est-ce que tu calcules tes macronutriments à la lettre ou vraiment c'est un peu au feeling, quoi?
Non, c'est au feeling, ouais. C'est au feeling, c'est plus à la sensation
t'es
et à la
sur
société.
Un scientifique, là, t'es sur un poète, là, t'es sur un artiste.
Du coup, ça prouve aussi qu'il faut pas trop non plus se prendre la tête.
Non, bien sûr.
Et qu'on peut atteindre un niveau de performance.
Mais tu sais quoi? Alors, je te conseille aussi un autre épisode qu'on avait fait avec Vincent Luis, qui est le triathlète de très haut niveau de l'équipe de France, qui nous avait raconté, on avait parlé avec lui de programmation, etc. Il nous avait raconté comme il était obsédé des données à un moment, de tout ce qu'il mangeait, son sommeil, etc. Et comme il s'est détaché de tout ça et qu'il s'est rendu compte que ça le libérait d'un poids, de ne pas être obsédé par tout ce qui l'entoure, en fait, la nutrition, l'hydratation, le sommeil, tout ça, c'était trop obsédant pour lui, il est un peu sorti de tout ça. Juste deux questions avec toi, Elliot, encore. Est-ce qu'il y a des additifs à absolument éviter, déjà?
Tous les additifs sont vraiment...
L'additif, c'est forcément nocif.
À partir du moment où on n'est pas sur de l'acide citrique, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de tout classifier aussi, mettre des E à toutes les choses, donc même les colorants naturels, tous les acides citriques. Ouais. Acide citrique, c'est du citron, acide ascorbique, c'est de l'orange. Ouais. Ben, voilà. Tout ce qui porte des noms très compliqués, imprononçables.
Ouais, c'est mauvais signe.
Faut éviter, quoi.
D'accord.
Mais ouais, de manière générale, les additifs, c'est mieux de les bannir, quoi.
Est-ce que le Nutri-Score, c'est fiable?
Le Nutri-Score, c'est pas fiable pour moi. Après il y a des gens qui te diront l'inverse parce qu'en fait le Nutri-Score va comparer des aliments dans une même catégorie, c'est-à-dire que par exemple il va comparer les pizzas entre elles, donc c'est-à-dire que si toutes les pizzas sont abominables, la moins abominable sera Nutri-Score A, tu vois.
Ouais, d'accord.
Un beurre de cacahuète par exemple, il peut être très bien alors qu'il n'y a pas de sucre ajouté ni quoi que ce soit, il peut être Nutri-Score E.
D'accord, ok. Parce que c'est considéré comme riche, alors que finalement...
Une pizza Sodebo peut avoir un Nutri-Score A, c'est possible.
D'ailleurs, tu cites quelques applis intéressantes pour comparer justement les additifs pour bien faire ses courses.
SIGA, c'est une très très bonne application.
Comment
c'est écrit ? S-I-G-A.
D'accord.
C'est une application en fait où les aliments sont classés en fonction du degré de transformation.
Ok.
Donc du coup, moins le degré de transformation est important et mieux l'aliment
c'est naturel, mieux c'est pour la santé.
Okay. Exactement.
Elliot, tu restes là, Yodu, toi aussi, on passe au bon plan matos.
RMC,
le bon plan matos.
Et on accueille une marque que l'on connaît bien, que tu connais bien aussi, parce que tu collabores avec Elliot. Yes. C'est NutriPure. Voilà, on en parle régulièrement. Ce sont des compléments alimentaires. Il y a toute une gamme évidemment de produits pour les sportifs et pour la bonne santé. On accueille Marine Archer qui est avec nous, qui est responsable marketing. Bonjour Marine.
Bonjour.
Bienvenue Marine dans RMC Running. J'imagine que tu souscris à tout ce que vient de dire Elliot, quoi. Tous les conseils donnés par Elliot, ça doit t'inspirer, ça doit te parler, quoi.
Absolument, absolument. On écoute assidûment tous les conseils en plus de tous les sportifs qui collaborent avec nous et ça nous inspire au quotidien pour développer nos produits.
Parce que c'est la marque de fabrique de NutriPure, dont on vous a reçu plusieurs fois, c'est que oui, ça reste du complément alimentaire, ça peut faire peur le complément alimentaire, mais vous, c'est votre rôle premier justement, c'est de rassurer et de se baser uniquement sur du produit naturel, hein, Marine ?
Oui, absolument, ouais. Les produits les plus naturels et les plus purs possibles avec seulement les ingrédients nécessaires, pas d'additifs et voilà, juste l'essentiel.
Tu utilises NutriPure au quotidien, toi, Lyon ?
Ouais,
Ouais.
Ouais, ouais.
Pourquoi ? Pour complément alimentaire, pour
petit déj, complément alimentaire. Moi, je mange le granola tous les matins, porridge aussi, le collagène principalement pour la course à pied. C'est un complément qui est hyper important.
Ah, je crois que c'était pour les cheveux de Johan. Rien à voir. Non, du coup, rien à voir. Marine, tu viens avec nous gentiment parce que vous sortez un nouveau produit d'ailleurs qui est destiné aux coureurs de long. On en parlait. C'est justement les boissons énergétiques longue distance. Est-ce que tu peux nous parler des spécificités de ce produit ? Qu'est-ce que ça apporte exactement ? Est-ce qu'on le consomme uniquement justement lorsqu'on est en train de produire un effort et d'être sur une longue course ? Quel goût ça a, etc. Est-ce que tu peux nous en parler, Marine, s'il te plaît ?
Ok, bien sûr, avec plaisir. Alors, donc, notre boisson énergétique longue distance a été développée en fait dans l'idée d'apporter sur le marché la formule la plus complète pour soutenir en fait les efforts supérieurs à 1h30, donc les efforts vraiment de long et la plus digeste possible, parce qu'on sait que le confort digestif, c'est un sujet récurrent pour les sportifs d'endurance. Donc au niveau de la composition, en fait, on a d'abord mis des glucides. On a 32,6 g de glucides, c'est un mélange de maltodextrine et de fructose dans un rapport de 2 pour 1, donc qui est optimal pour l'assimilation pendant l'effort, associé avec des BCAA qui vont permettre de récupérer pendant l'effort et de freiner le catabolisme musculaire, des minéraux, ce qu'on appelle les électrolytes, qui sont perdus en fait pendant l'effort par la sueur, donc le magnésium, le potassium, le sodium, le calcium, et des vitamines C et bien B2 pour maintenir un bon niveau d'énergie. Et cette composition qui est très complète, qui va au-delà de l'apport de glucides, en fait, elle est associée à une technologie innovante, la technologie Pure Digest, qui fait que le produit en fait se transforme en gel au contact de l'estomac pour favoriser son assimilation et donc de limiter les problèmes digestifs dont je parlais au début et qui sont fréquents pour les sportifs d'endurance.
Tu sais que dès que tu me parles de tout ça, moi j'ai les yeux rivés sur Elliot. Hein. Je regarde si il est caisse ou pas et pour l'instant ça va. Ouais, ouais.
Ça va.
La difficulté de ce type de produit, et on en parle souvent d'ailleurs avec les coureurs, c'est digérer et accepter le goût. Parce que toi aussi ça doit te parler, Elliot, beaucoup de matières chimiques dans les différents gels d'effort, etc. La chance de ce produit, c'est que ça a un goût assez neutre. Moi j'ai eu la chance de les tester. Tu ressens même pas qu'il y a du produit entre guillemets dans ta gourde d'eau. C'est important aussi mentalement de pouvoir le digérer comme ça.
Moi j'ai vécu des expériences, je suis désolé, je vous raconte ma vie. Mais
vas-y.
J'ai fait le marathon des sables l'année dernière
et
j'ai pris tous les parfums possibles parce que je me suis douté que j'allais être dégoûté. Et en fait, j'ai pris des flasques en plastique et en fait, tous les goûts se mélangent au bout d'un moment. Et en fait, c'est une horreur.
Le beurre salé cassis.
Non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important d'avoir un goût neutre parce que quand tu fais un effort dur, c'est.
Là, on parle de run longue distance, Marine. Ça veut dire qu'on est sur des efforts supérieurs à quoi ? À 90 minutes ? 1h30 ? 1h40 ?
Ouais. 1h30, ouais. Supérieur à 1h30.
Okay.
Et après, quel que soit le type d'effort. Hein. Ça peut être du trail, du run, du triathlon, peu importe. Voilà.
Un sachet, c'est 40 grammes. Et il faut quelle quantité d'eau, alors ?
Il faut le diluer dans minimum 40 ml d'eau. Ça peut être plus en fonction de la température extérieure. Ça, on laisse vraiment les athlètes juger en fonction de leurs besoins. S'il fait plus chaud, on peut diluer plus. Mais minimum 40 ml d'eau. Et puis, on suggère de le consommer progressivement pendant l'effort. En fait, une gorgée toutes les 10 minutes environ.
Ok. Je me suis fait réprimander par Johan Durand juste avant le Marseille-Cassis parce que j'avais une bouteille d'eau avec moi, une bouteille d'eau fraîche. Il m'a dit « Oh, attention à l'estomac !» Quand tu mets de l'eau dans un produit comme ça, Elliot, vaut mieux mettre de l'eau tempérée, ouais.
Tempérée, parce que ta température corporelle, elle monte de fou quand t'es dans un effort musculaire et tout est hyper sensible. Donc si tu mets de l'eau
froide... Rien de froid, alors.
Faut éviter,
Okay. Sur le ventre, ouais.
Bon.
Marine. Et c'est le piège des marathons qui ont lieu tôt le matin, quand ils posent les ravitaillements à 6h du matin.
Exactement.
D'avoir sa boisson ou la boisson de l'organisation très fraîche. Ouais. Vaut mieux, et du coup, si elle est fraîche, vaut mieux la triturer un peu dans sa bouche avant de l'avaler. Hein. Mais bon, en courant, c'est pas évident.
C'est pas très facile. Ouais.
Non, mais ouais.
Après, nous, on passe.
Il faut la réchauffer, quoi.
Ouais, c'est
nous,
ça.
On passe jamais aussi tôt que Johan aussi, donc ça va.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Moi,
j'ai chauffé l'eau.
Ouais, c'est la chose.
Moi, à 10h, je suis douché.
Ouais, c'est ça.
Quand le soleil se lève.
Alors que nous, on a à peine passé le semi.
Ouais, c'est ça.
C'est sûr, c'est un problème. Bon, Marine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Magnifique produit.
Je vous en prie. Merci à vous
de m'avoir invité. À bientôt, Marine. Et on rappelle, donc, on fait gagner 5 exemplaires de ce magnifique produit. On vous propose un test d'écoute d'ailleurs pour le gagner. Vous laissez votre adresse mail sur nos réseaux sociaux, Strava, Instagram, Twitter. Et le test d'écoute, c'est de savoir quelle sera la prochaine course d'Eliott. S'il nous en a parlé, ça nous a fait sourire.
Il en a plein.
Il va en enchaîner les deux. Il va en enchaîner les deux, mais il y en a une assez inédite qui va disputer d'ici 15 jours. Donc voilà, le test d'écoute, c'est lié à ça. Eliott, avant de te remercier, on a la tradition de la musique évidemment, mais où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux ? Parce que tu as une grosse communauté, mais tu es sur Insta, sur YouTube aussi un petit peu ?
Sur Instagram, un petit peu sur YouTube.
Ouais.
Je propose pas les mêmes contenus. Hein. Sur YouTube, c'est plus des séances de sport.
Ouais, d'accord.
Et puis voilà, après sur Strava. Hein.
Et Instagram, c'est ton nom,
Elliot Instagram, Saja, c'est, ouais, Instagram, c'est Elliot.Saja, okay. Partout en fait.
Et ceux qui voudraient se procurer ton livre, où est-ce qu'on peut l'acheter?
Tu peux le commander partout, il est dispo sur la Fnac, okay. Et sur généralement toutes les librairies un peu partout, bon. Tu le trouveras normalement. Et
indiquez-nous, parce que je vous le dis, Elliot a la gentillesse de nous offrir deux exemplaires, ouais, du livre, Fit and Body Change. Allez-y vraiment, on apprend beaucoup de choses, c'est très très intéressant. Donc allez-y là aussi sur nos réseaux sociaux, laissez votre adresse mail en commentaire. Elliot, on a cette tradition pour terminer, donc c'est la musique que tu écoutes quand tu cours. Tu as choisi Tiesto, hein, c'est ça?
Exactement,
voilà, ouais. Ça donne ça. C'est quoi le nom de la maison, la musique?
Alors, je sens mon accent anglais, je la fais en français, c'est 10h35. 10h35.
Ouais, t'as raison, bah, on sera pas choqués avec Johan, rassure-toi. Pas mal ça, Yodu, qu'est-ce que t'en penses?
Bon, ça bouge.
Ouais.
Ça bouge un petit peu.
T'as envie de manger des pâtes complètes?
Non, il a dit que c'était pas bon. Tu vois, t'as pas écouté.
Si, j'ai voulu te piéger, mon petit pote. Eh ouais, tu restes sur le riz, ok? C'est bien compris?
C'est ça.
Et les légumes à volonté. Voilà. Et surtout pas d'additif, peu importe. Exactement. Tous les noms compliqués, c'est mort. C'est ça l'idée. Merci Eliott d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.